Bien chers auditeurs de Radio Maria, bien chers amis, nous reprenons notre enseignement que nous avions commencé il y a 15 jours sur l'amour et la vie, le lien entre amour et vie, comment conjuguer amour et vie dans l'union intime. Et on voit bien que cette conjugaison n'est pas si simple, due à notre nature blessée. Mais c'est quelque chose qui, quand on essaie de cheminer vers cette cohérence, sans abîmer cette conception de l'amour et de la vie, comme quand on conjugue amour et vie, quand on chemine vers cette conjugaison d'amour et vie, pour être plus précis, dans l'union intime, eh bien, c'est un chemin de bonheur. Voilà. C'est une décision à prendre, c'est un choix à prendre. Alors, on avait réfléchi et terminé par la possibilité de nous mettre, comme Sarah et Toby, dans les mains du Seigneur, jusqu'à dans cette union intime, laisser le Seigneur venir guérir ce qui pouvait être blessé. Alors, on va recommencer, on va continuer aujourd'hui sur cette pédagogie de la sexualité, si vous voulez bien, et on terminera le dernier vendredi de mai, c'est-à-dire je crois le 27 mai, sur des petites clés. Des petites clés qui peuvent aider à cheminer vers cette conjugaison d'amour et vie qui conduisent au bonheur. Alors là, aujourd'hui, nous parlons de la pédagogie de la sexualité. Cet enseignement que nous a donné Jean-Paul II dans la théologie du corps nous a permis de comprendre que l'acte sexuel est d'abord un langage de communion, c'est-à-dire un moyen d'exprimer le désir d'union de nos corps, c'est-à-dire un langage, c'est-à-dire qu'on parle une langue, c'est pour dire quelque chose, que le paysage est beau, qu'on a envie de prendre le train, eh bien l'acte sexuel c'est un langage qui va nous permettre de cheminer vers la communion, le langage de la communion des corps propres aux époux, et que cette communion est à l'image de l'amour de Dieu. Communion de personnes, hein. C'est ce vers quoi nous sommes appelés à tendre. Et pour qu'il y ait communion, eh bien, il faut que l'homme se donne pleinement. Il faut que la femme se donne pleinement, sans réserve, totalement, avec la totalité de ce qu'ils sont. Que l'homme se donne avec tout ce qu'il est. Que la femme se donne avec tout ce qu'elle est. Et je vais même aller que l'homme accueille la femme avec tout ce qu'elle est. Et que la femme accueille l'homme avec tout ce qu'il est. Voilà. Alors, on va essayer de voir un petit peu comment on peut comprendre ça et comment bien comprendre ce lien profond entre l'amour et la vie, union, procréation, qui est au cœur de l'union sexuelle. On aurait pu, Dieu aurait pu décider que ces deux gestes soient séparés l'un de l'autre, c'est-à-dire que l'expression de l'amour et la capacité à donner la vie soient deux actes, deux gestes différents. Eh bien non. En fait, Dieu les a créés ensemble. Ils ont été créés en un seul geste, et ce geste passe par le don total très intime des personnes. Et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi dans la création. Alors, on va approfondir cette vision-là, et vous comprenez bien que quand on sépare artificiellement ces deux dimensions qui sont appelées, qui sont créées pour être ensemble, pour être un, la dimension de l'amour et de la vie, la dimension union unitive et procréative, quand on sépare, eh bien, on porte atteinte à l'unité de la personne, même si on n'en a pas forcément conscience. Alors, on va voir que se passe-t-il quand on sépare ces deux dimensions. Et encore une fois, chers amis de Radio Maria, je voudrais vraiment vous demander pardon si par mes propos je vous blesse ou si vous sentez une indélicatesse dans la façon dont j'exprime ce que je ressens, ce qui fait partie de mon émerveillement et presque de ma passion, parce que c'est si beau et si grand ce que le Seigneur a mis là au cœur et à l'intimité de notre personne. Pardon si mes propos un peu enthousiastes vous blessent. J'ai évidemment conscience que je m'adresse à des personnes que je ne connais pas, mais qui pour certains ont eu des blessures, des souffrances déjà, et que ces souffrances peuvent être profondément ancrées et paralysantes. Je vous invite à vraiment entendre avec votre cœur ce que je vais vous partager pour qu'on puisse ensuite prier pour que le Seigneur vienne restaurer et peut-être même, pourquoi pas, guérir ces profondes blessures qui sont en vous et qui permettent que le Seigneur puisse venir restaurer ce qu'il a voulu inscrire au fond de votre personne pour restaurer l'unité de votre personne. Alors, si vous voulez bien, j'aimerais qu'on parle de la... On parle de procréation et d'union et procréation. Eh bien, si vous voulez bien, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va parler de procréation sans union. Qu'est-ce qui se passe quand il y a procréation d'un enfant sans qu'il y ait union des corps? Eh bien, en fait, c'est ce qu'on appelle la PMA. Vous voyez, il y a une personne qui m'a raconté qu'elle avait fait une expérience auprès d'un cabinet, d'un médecin qui... voilà, réaliser des procréations médicalement assistées auprès de couples, hommes-femmes, et elle voulait voir un petit peu, c'est une philosophe, elle voulait voir un petit peu sur le plan, le regard philosophique sur la personne humaine, ce que ça pouvait avoir comme impact. Et ce qu'elle en a déduit, c'est que beaucoup des couples qui étaient là, après avoir eu une manipulation, c'est-à-dire un acte médical qui vient semer quelque chose qui a été fait à l'extérieur du corps de la femme et vient le projeter dans le corps, dans l'intimité de la femme, eh bien, il s'avérait que souvent les couples exprimaient un très grand désir de s'unir. Comme s'ils avaient envie quand même que par cet acte, leur corps réalise quand même l'union des corps pour signifier qu'ils allaient fabriquer ce bébé, même s'il avait été fabriqué à l'extérieur, eh bien, vouloir quand même unir les corps pour qu'il y ait une cohérence par rapport à ce qui se passait à l'extérieur et pouvoir l'exprimer dans l'union de leur corps. C'est quand même extrêmement touchant. Et c'était tellement vrai que le médecin qui recevait ces couples après l'intervention médicale, après cette procréation médicalement assistée, eh bien, c'était tellement fréquent qu'il avait fini par avoir une liste d'hôtels qui se trouvaient à moins de 10 km pour que les couples puissent se précipiter dans une chambre, dans l'intimité d'une chambre d'hôtel pour se donner, dans leur intimité, donner leur corps l'un à l'autre pour exprimer ce qui venait de se passer. Vous voyez, c'était vraiment profondément inscrit en eux. Et puis, alors on va reprendre dans l'autre sens, c'est-à-dire l'union sans procréation. Qu'est-ce qu'il en est de cette union conjugale sans procréation, c'est-à-dire que l'on met volontairement, que l'on préserve volontairement par un contraceptif pour qu'il n'y ait pas de procréation, qu'il n'y ait pas d'enfant. C'est un acte conjugal contraceptif, c'est une union physique, c'est vrai, mais qui ne correspond pas au don total des personnes. Alors, on va essayer de comprendre ça. Quand une femme prend la pilule, donc elle supprime la capacité qu'elle a en elle de donner la vie. Elle supprime son cycle ou porte un stérilet. Elle ne donne pas sa fertilité à son époux. C'est-à-dire qu'elle se donne en retenant une partie d'elle qui est sa fertilité. Un autre exemple, si un homme, pour éviter d'avoir à ajuster son comportement, le mari impose à sa femme de prendre un moyen contraceptif, eh bien de la même manière, il ne l'accueille pas comme un don. C'est-à-dire qu'il accueille sa femme, mais il y a une partie, c'est-à-dire la partie de la fertilité qui est dans le corps de sa femme, il ne la prend pas. C'est-à-dire il ne prend pas toute la personne avec sa fertilité, son cycle. Quand l'époux met un préservatif, il ne donne pas de la même manière sa fertilité. Et l'épouse n'accueille pas cette fertilité hyper puissante de l'homme à ce moment-là. Vous voyez que quand je parlais tout à l'heure de don des corps en vérité, avec tout ce qu'il est, pleinement, c'est-à-dire avec un corps, mais aussi avec une capacité à donner la vie, eh bien quand on supprime cette capacité à donner la vie, on n'accueille pas l'autre pleinement comme il est. Où on se donne pas pleinement comme on est. La contraception, finalement, contrevient au don et à l'accueil du don. Je veux bien de toi, mais sans ta fertilité. Je me donne à toi sans ma fertilité. Je me souviens d'avoir longtemps échangé avec un couple de jeunes avocats qui étaient là en préparation au mariage. Et quand on faisait cet enseignement, tout d'un coup, il me dit, mais alors ça, c'est quand même incroyable. Ça fait plusieurs années qu'on se connaît, ça fait 2 ans qu'on vit ensemble, mais pas une seconde. J'ai imaginé que la fertilité de ma conjointe, qui était en fait là sa fiancée, ils allaient se marier quelques mois après, 2-3 mois après, donc je n'avais pas imaginé que sa fertilité me concernait. C'est quand même extraordinaire. Il a vécu 2 ans, jour après jour, avec une femme, et pas une seconde, il s'est dit, tiens, au fait, c'est quoi la fertilité de celle qui va être ma femme? Et elle n'a pas envisagé une seconde de lui dire, de lui partager, puisque dès le départ, c'était un non-sujet, et dès le départ, cette fertilité a été voilée, a été mise de côté, mise dans une réserve, une cave. C'est pas un sujet, on n'en parle pas, c'est pas un sujet d'actualité. Ça viendra le jour où on voudra un enfant, le reste du temps, ça n'existe pas. Mais je lui ai dit, mais demande donc à ta fiancée si cette fertilité, elle l'a vue, si pendant 2 ans, cette fertilité était inexistante. Elle a eu un cycle, elle a eu ses règles régulièrement, etc. Et là, elle me dit, mais je ne pensais pas que c'est quelque chose qui concernait mon fiancé. Vous voyez où est-ce qu'on peut en arriver? Et ça va très loin parce que de plus en plus de jeunes femmes, en fait, ignorent tout de leur fertilité, ne savent pas trop comment ça marche. À force de mettre un voile dessus, de l'éteindre, de l'effacer, de le supprimer de notre mémoire, de notre existence, de notre tête, de notre esprit, eh bien, on finit par le supprimer de notre cœur et n'existe plus. Et on s'ampute, en fait, d'une réalité, d'une partie de nous, de façon inconsciente, mais on s'ampute d'une partie de nous. Et donc, on se donne, avec un projet de mariage derrière, mais en oubliant une partie de nous. On ne se donne pas en totalité. Et c'est pour ça que c'est important de revenir sur cette réalité et cette compréhension que je suis un, moi, Marie-Gabrielle, je suis là, je me donne à Emmanuel avec mon corps, mais dans mon corps, il y a une fertilité. Et puis, Emmanuel, il se donne avec son corps, et dans son corps, il y a une super, super puissante fertilité, et moi, une fertilité cyclique. Et c'est ainsi que le Seigneur l'a voulu. C'est ainsi que le Seigneur l'a fait. Et donc, il y a vraiment une conversion du cœur pour essayer de le comprendre. Vous voyez, c'est comme si on mutilait quelque chose, voilà. C'est comme une union physique. Si j'exclus artificiellement la procréation, l'union peut être une communion, mais elle n'est pas un don total. C'est une union physique, mais pas un acte d'amour dans la vérité des corps. Parce que on sépare deux choses qui ne sont pas séparables, c'est-à-dire qu'on mutile quelque chose. Si on veut vivre la signification procréative uniquement, on mutile là, la dimension unitive. Si on veut vivre la signification unitive uniquement, ben, on va mutiler la dimension procréative. Vous voyez, ce sont deux choses qui ne sont pas séparables. Et le Seigneur les a mis ainsi en nous. En fait, il s'agit d'accueillir son corps et le corps de l'autre, de le comprendre, de le célébrer. Vous savez, Dieu ne s'est pas trompé en créant la femme avec un cycle. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas une erreur. Vous voyez, la main, les mains que j'ai, elles servent à serrer, à donner une tendresse, à caresser, à exprimer de l'amour. Il ne me viendrait pas à l'idée de supprimer ma main. De même que ma bouche, elle est là pour parler, pour exprimer mon amour. Elle est là pour embrasser, pour humer avec mon nez, pour sentir. Mais il ne me viendrait pas à l'idée de supprimer ma bouche ou de supprimer mon odorat. Vous voyez, et là, on se permet, parce que c'est inscrit en moi, parce que ma main est un organe, est un membre de mon corps qui est là pour exprimer la tendresse et qui va m'aider à enlacer mon époux et à être en communion avec lui. Et ma bouche va permettre de l'embrasser, participer à cette communion, etc., etc. Tout mon corps va participer à faire ce chemin de communion de nos corps. Mais ça ne viendrait pas à l'idée de le supprimer. J'accueille tout ce qui est inscrit dans mon corps pour me permettre de cheminer dans le don de ma personne, cheminer vers la communion en me donnant. Et c'est ainsi que je célèbre l'amour, je célèbre l'intimité conjugale. Et bien, c'est pareil avec le cycle qui est inscrit dans le corps de la femme. Il est là pour permettre de célébrer l'union conjugale. Dieu, encore une fois, ne s'est pas trompé en créant cette fertilité super puissante chez l'homme et en créant ce cycle chez la femme qui vient comme des saisons nous redire cet appel à l'amour et à la vie. Comme c'est beau! Le pape François nous éclaire dans Amoris Laetitia au numéro 80. Je vais vous lire un petit extrait, c'est facile à entendre parce qu'il a une expression assez facile et fluide au sujet de la transmission de la vie. Il nous dit la chose suivante: le mariage est en premier lieu une communauté profonde de vie et d'amour qui constitue un bien pour les époux eux-mêmes. Et la sexualité est ordonnée à l'amour conjugal de l'homme et de la femme. C'est pourquoi les époux auxquels Dieu n'a pas donné d'avoir des enfants peuvent néanmoins avoir une vie conjugale pleine de sens, humainement et chrétiennement. Cependant, cette union, l'union des corps donc, est ordonnée à la procréation par sa nature même. En arrivant, l'enfant ne vient pas de l'extérieur s'ajouter à l'amour mutuel des époux. Vous voyez, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur la procréation médicalement assistée. En arrivant, l'enfant ne vient pas de l'extérieur s'ajouter à l'amour mutuel des époux. Il surgit au cœur même de ce don mutuel dont il est un fruit et un accomplissement. L'enfant donc ne survient pas comme la fin d'un processus, mais plutôt il est présent dès le début de l'amour comme une caractéristique essentielle qui ne peut être nié sans mutiler l'amour même. Et donc, vous voyez qu'il insiste en disant, dès le départ, l'amour rejette toute tendance à s'enfermer sur lui-même et s'ouvre à une fécondité qui le prolonge au-delà de sa propre existence. Donc, aucun acte génital des époux ne peut nier ce sens, même si pour diverses raisons, il ne peut pas toujours engendrer une nouvelle vie. Et là, il fait référence, il le dit précisément, à humanévité. CF, humanévité. C'est-à-dire ce que je vous disais lors de la dernière rencontre, que en fait, on est invité à accueillir ce qui est inscrit au fond de nous. Voilà. On est invité à prendre et à accueillir ce qui est inscrit au fond de nous. Et en faisant le choix d'adapter notre vie intime au rythme du cycle féminin, eh bien les époux maintiennent un lien, ce lien que Dieu a mis dans leur corps, dans l'union intime entre amour et vie, entre union et procréation. Le couple va avoir confiance dans la création qui propose cette alternance. Et cette alternance est donnée par les périodes fertiles et non fertiles. Il invite ainsi à alterner des périodes d'union ou des périodes pendant lesquelles l'amour s'exprime autrement. Et le couple qui accueille ce qui est inscrit en eux savent qu'ils répondent à Dieu en accueillant le cadeau de l'union intime telle qu'il l'a créée. Parce que cette union intime, elle nous a été donnée par Dieu. Et elle signifie, c'est là où nous sommes, image de Dieu. Et donc, on est invité dans cette union intime à être le plus respectueux de ce que Dieu a mis au fond de nous. Un acte conjugal qui serait vécu comme un lieu de domination serait blessant, profondément blessant. Il s'agit d'accueillir son corps et le corps de l'autre, de le comprendre et de le célébrer. Encore une fois, Dieu ne s'est pas trompé en créant le corps de l'homme et le corps de la femme. Notre appel dans le mariage est de tendre vers cela. C'est un chemin. Ce sont des étapes qu'il faut prendre. Il ne s'agit pas seulement de vouloir le plaisir, le bien de l'autre, ou son plaisir, ou son bien. Il s'agit de se donner. Il s'agit de ne pas utiliser l'autre. Il ne s'agit de ne pas considérer que l'autre est là pour assouvir ses pulsions. Nous sommes là pour avoir du plaisir, et c'est bien ainsi, Dieu l'a voulu ainsi. Dieu a voulu cette tendresse, cette joie de l'union des corps. Et c'est ainsi que nous pouvons grandir dans la satisfaction de la joie que nous pourrons nous donner l'un à l'autre. L'idée n'est pas d'être performant, de rechercher une performance ou d'assouvir des pulsions. Le projet, c'est de se donner, de s'attendre, de se préparer, de s'accompagner l'un l'autre, de s'aider l'un et l'autre, de se révéler, de s'ouvrir, ouvrir son cœur, ouvrir son corps pour pouvoir ensemble cheminer. Vous savez, si vous relisez le Cantique des Cantiques, je vous en ai lu un extrait la dernière fois, vous verrez à quel point l'épouse, la bien-aimée, s'ouvre doucement et se fait désirer et fait monter en elle le désir pour que le bien-aimé vienne, s'approche doucement et tendrement vers elle pour pouvoir, au moment ultime, lui ouvrir son jardin secret et pouvoir se donner complètement. Et là, je me donnerai à tes amours. Et là, je donnerai tout ce que je suis dans tes amours. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce temps qu'il faut pour ce chemin qu'il faut pour pouvoir se donner à cet amour en vérité. Alors, ça veut dire quoi tout ça ? L'idée n'est pas d'imposer, encore une fois, des interdits ou des « c'est permis, c'est pas permis ». C'est pas non plus une histoire de méthode naturelle bio ou pas bio qu'on appliquerait. Mais c'est un chemin vers une maturation de nos personnes avec la grâce de Dieu. On comprend bien que vivre ainsi ne brise pas le lien entre union et procréation qui est inscrite dans notre corps. Et les signes de notre fertilité nous disent notre appel au don de nous-mêmes. Et c'est ça qui est beau. Alors, peut-être qu'il faudrait que les époux qui n'ont pas pris l'habitude d'accueillir ce cycle, cette fertilité qui est inscrite dans le corps de la femme, eh bien, puissent prendre le temps de connaître qu'est-ce que le cycle de la femme, quel jour il commence, comment ça se passe, à quel moment mon épouse est fertile ou à quel moment je suis fertile, parce qu'il y a des femmes qui ne connaissent même plus leur cycle. Je me souviens dans une réunion de jeunes où on parlait de ce lien entre amour et vie et comment la sexualité pouvait être vécue en vérité dans l'intimité conjugale. Et je leur demande aux garçons, mais à votre avis, le premier jour du cycle, c'est quel jour ? Quel est le premier jour du cycle ? Comment une femme sait qu'aujourd'hui, c'est le premier jour du cycle ? Et juste cette réponse extraordinaire d'un garçon, c'est le lundi. Ah, je lui dis, comment ça, c'est le lundi ? Il me dit, oui, tous les lundis, c'est le premier jour du cycle. Alors, vous voyez, il y a quand même... c'est quelqu'un qui était à Bac plus 3. Donc, vous voyez, il y a quand même du travail à faire. Et il arrive souvent, l'expérience que nous avons eue avec Emmanuel sur les préparations au mariage, que finalement, beaucoup de femmes ne connaissent pas leur cycle. Et elles savent grosso modo qu'il y a une période de règles, une période pas de règles, mais elles ne savent pas trop qu'il y a une vraie période féconde, à quel moment elle arrive, et qu'est-ce qu'elle dit de moi, et qu'est-ce qui se passe après, etc. Or, il y a des tas de choses à se dire, quand on parle de langage des corps, il y a des tas de choses à se dire et à découvrir. Alors, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur ces sujets-là. Personnellement, je recommande les livres ou les écrits qui ont été faits par Gabriel Viala, qui, je trouve, apporte une connaissance du corps. Et puis, voilà. Ou sinon, le livre qui a été fait aussi par René, Isabelle et Cochard sur ces sujets. Voilà, ce sont des personnes qui ont une connaissance et puis un accueil. Voilà, ils nous prennent là où on est, puis ils nous font cheminer. Et ça, je trouve ça très intéressant. Parce que l'idée, c'est vraiment de pouvoir accueillir ce que je suis, une merveille. Tout ce qui est inscrit dans mon corps est beau et ma fertilité est un cadeau que Dieu me fait. Et donc, je vais cheminer pour accueillir cette fertilité qui dit quelque chose de notre capacité à donner la vie quand nous nous unissons à tel moment ou être simplement... Ne pas donner la vie et peut-être être le lieu du don des corps aussi et nous faire connaître des grandes joies dans cette communion des corps. Et vous voyez qu'en vivant comme ça, on est accueilli comme on est, c'est-à-dire que quand Emmanuel m'accueille avec ce que je suis, c'est-à-dire avec mon cycle, avec ma fertilité, il accueille tout Marie-Gabrielle. Il accueille Marie-Gabrielle pleinement, avec tout ce qu'elle est, avec tout ce que dit son corps et sa féminité. Et je me donne avec tout ce que je suis, et je suis accueillie telle que je suis. Et l'homme et la femme peuvent réaliser véritablement une communion de tout leur être, conformément au dessein de Dieu, en accueillant ce qui est inscrit en eux. La femme, finalement, va apporter au couple de vivre des saisons, comme des saisons qui nous réjouissent, parce qu'elles apportent des nouveautés, le printemps, l'été, etc. Et le cycle va nous apporter justement cette joie des nouveautés dans les saisons, des nouvelles choses qu'on peut vivre ensemble. Les époux qui font le choix de la contraception, malheureusement, rendent leurs unions non fertiles pour pouvoir s'unir sans se soucier des périodes fertiles et non fertiles. Ils ne souhaitent pas avoir à modifier leur comportement. Finalement, la contraception change leur union intime, qui n'est plus telle que le Créateur l'avait prévue pour les époux. Comme c'est dommage. Je vais vous lire un extrait de le petit manuel d'une écologie humaine de René-Isabelle Ecochard, qui est vraiment très beau. La partition écrite par Dieu pour trouver la joie dans l'intimité conjugale. Dieu ne s'est pas trompé en nous créant tels que nous sommes avec notre fertilité. La régulation naturelle ou connaître son corps n'est pas une contrainte ou une frustration imposée au couple, mais un chemin que Dieu a tracé pour permettre au couple de vivre dans son amour, de connaître la joie, de tendre vers la béatitude. Ayons confiance dans le plan de Dieu pour nous, parce que c'est un dessein d'amour. En effet, garder l'intégrité de l'union intime, c'est accueillir avec confiance les chemins proposés par le Créateur pour être sanctuaire de l'amour et de la vie. C'est-à-dire un chemin qui va mener à sa ressemblance. Ce chemin présente des difficultés, c'est vrai qu'on tombe. Mais le Seigneur est là pour nous accueillir tels que nous sommes. Il pardonne nos échecs et il attend simplement notre oui à son projet pour que nous puissions nous relever et avancer en vérité. C'est une antidote à la possible monotonie du couple. En effet, vivre avec les saisons du cycle féminin et donc les saisons de la fertilité conjugale est en réalité une joie et une antidote à la monotonie puisque on revient dessus indéfiniment et puis le moindre changement, hop, le cycle peut changer, changement de lune, contrariété, etc. Donc, vous savez, c'est un moment où l'époux va demander tous les soirs à son épouse, comment te sens-tu aujourd'hui? Ou le matin, comment te sens-tu aujourd'hui? Quel bonheur pour une femme d'avoir un mari délicat, attentionné, qui s'intéresse à ce qu'elle ressent, ce qu'elle est. Vous voyez, un certain nombre de sexologues proposent même à des couples qui vivent des difficultés, ils proposent même des pauses sexuelles aux couples qui vivent des troubles du désir ou autres difficultés. C'est quand même hallucinant. J'avais vu ça dans un article dans un journal de gauche, pour tout dire, de Libération, qui disait l'étonnement des sexologues qui s'aperçoivent de plus en plus que des couples souhaitent s'imposer des périodes d'abstinence pour pouvoir retrouver la joie de se rencontrer, pour faire grandir le désir de l'autre. Vous voyez, c'est-à-dire comme si, étant dopé à un contraceptif depuis tant d'années, j'en ai perdu le sens de ce que je suis, mais j'ai quand même un profond désir au fond de moi de retrouver ce chemin qui va me permettre de faire grandir en moi le désir de l'union. Et donc, nous allons en couple nous imposer des pauses. Et alors, il regardait les cycles de ces pauses et c'était amusant parce que c'était à peu près une semaine par mois. Et en réalité, c'est ce qui correspond à cette période fertile que le couple a. Et un couple qui ne souhaite pas, pour des raisons qui leur est propre, parce que seuls l'époux et l'épouse peuvent décider de ce qui est de la possibilité d'ouvrir la vie dans leur foyer, d'avoir un autre enfant. Et donc, seuls les parents sont décisionnaires et donc peuvent s'unir dans les moments où il n'y a pas de fertilité. Donc, vous voyez comme c'est étonnant que finalement, naturellement, il y a ce désir de s'imposer des périodes d'abstinence, des pauses sexuelles, ils appellent ça, pour pouvoir retrouver un chemin de désir. Moi, je trouve aussi que ça permet une interaction formidable au cœur du couple entre l'homme et la femme, parce que au cœur de cette écologie humaine, il y a deux points importants. On va s'émerveiller de ce qu'est l'autre et on va prendre soin, l'accueillir comme il est. Accueillir, c'est l'émerveillement, c'est une attitude profonde qui nous traverse. Gratitude pour le corps reçu de chacun, pour le corps donné, accueillir notre fertilité et cette capacité à aimer. Voilà le lieu de l'émerveillement. On sait qu'on est tous vulnérables. On sait combien on a besoin que l'autre prenne soin de nous, que l'autre soit attentif et bien que l'autre puisse être responsable. Mais pour ça, il y a des règles. Il y a des règles qui sont là pour nous permettre de cheminer vers le bonheur. Le cycle féminin, finalement, a un rôle de premier plan dans l'écologie humaine pour développer une pédagogie de la relation entre l'homme et la femme avec l'émerveillement mutuel. Et le fait de prendre soin de l'un et de l'autre dans les différents temps du cycle, pendant les périodes fertiles, etc., se révèle au plus haut point et permet en fait au couple non seulement de se révéler l'un à l'autre comme ils sont, mais de s'émerveiller l'un et l'autre comme ils sont et s'accueillir l'un et l'autre comme ils sont. Alors, c'est sûr qu'on peut prendre du temps. Ça peut être long pour accueillir ce beau projet de Dieu pour l'amour humain. Ça peut être long de le vivre. Mais tous, nous sommes invités à nous mettre en chemin, à progresser et à mettre notre confiance en Dieu, parce qu'en fait, Dieu ne veut que notre bonheur. Et je voudrais vous lire aussi, toujours dans Amoris Laetitia, ce que le Saint-Père nous dit au numéro 82. Les pères synodaux ont souligné qu'il n'est pas difficile de constater la diffusion d'une mentalité qui réduit l'engagement de la vie à une variable de projet individuel ou de couple. L'enseignement de l'Église vient aider à vivre de manière harmonieuse et consciente la communion entre les époux sous toutes ses dimensions, y compris la responsabilité d'engendrer. Il faut découvrir le message de l'encyclique Humanae Vitae de Paul VI, dont je vous ai parlé la dernière fois, qui souligne le besoin de respecter la dignité de la personne dans l'évolution morale des méthodes de régulation de naissance. Dans ce contexte, nous dit le Saint-Père, je ne peux m'empêcher de dire que si la famille est le sanctuaire de la vie, le lieu où la vie est engendrée et protégée, le fait qu'elle devienne le lieu où la vie est niée et détruite constitue une contradiction déchirante. Alors, chers amis, pour conclure cette séance, je voudrais vous poser quelques questions qui vous peut-être peuvent vous aider à réfléchir. Vous demandez si vous connaissez bien votre corps. Pour les époux, les hommes, les époux et les épouses, peut-être faire le point sur le cycle de votre épouse, voir si vous connaissez finalement bien le cycle de votre épouse. Et puis, pour ceux qui déjà connaissent bien cet accueil, vivent de cet accueil de la fertilité de l'un et de l'autre, super puissante pour les hommes et cyclique pour les femmes. Eh bien, peut-être cheminer aussi sur vous poser la question de savoir si vous êtes en vérité par rapport à ce don. Vous voyez ça, on a besoin d'être éclairé. L'objectif de l'union conjugale, c'est la communion. Ça, nous le savons, nous l'avons dit. Et c'est parce qu'un couple veut vivre de la communion, veut vivre cette communion, fruit du don et de l'accueil mutuel, qu'il cherche qu'il va accueillir la fertilité de l'un et de l'autre, c'est-à-dire à la connaître, pour ajuster leur comportement. Ainsi, ils pourront s'unir ou pas, selon qu'ils décident ou pas d'ouvrir leur foyer à la vie. Mais c'est une décision qui leur appartient seule. Le moyen nécessaire pour vivre le don de soi en vue de la communion et la connaissance et le respect de la fertilité du couple. Je t'accueille tel que tu es, avec ta fertilité. Et je me donne, tel que je suis, avec ma fertilité. Mais ce moyen n'est pas suffisant pour vivre la communion, car cela n'empêche pas de tomber dans la concupiscence lors des unions conjugales, c'est-à-dire de rechercher le plaisir pour soi, d'utiliser ainsi l'autre comme un objet de satisfaction, pour sa satisfaction. Je vous lis un extrait de la théologie du corps de Saint Jean-Paul II au numéro 130. La connaissance des rythmes de fécondité, même si elle est indispensable, ne crée pas encore cette liberté intérieure du don, qui est de nature explicitement spirituelle et dépend de la maturité intérieure de l'homme. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose à creuser dans son cœur. Il en est de la capacité à faire grandir dans son cœur ce désir du don. Et le Saint-Père continue, cette liberté suppose une capacité de diriger les réactions sensuelles et émotives de l'homme telles qu'elles rendent possible le don de soi à l'autre. Je, sur la base de la mûre possession de son propre je dans sa subjectivité corporelle et émotive. C'est-à-dire qu'en gros, c'est je me donne à toi et je t'accueille comme tu es et je me donne à toi pour le bonheur de l'autre, pour ton bonheur, pour ta joie, pour connaître ta joie, etc. Et si l'un et l'autre cherchent la joie de l'autre, eh bien les corps peuvent doucement, progressivement cheminer l'un vers l'autre. Et je crois qu'il y a un vrai travail à faire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que avec cet accueil du cycle que nous avons progressivement fait dans notre couple, eh bien, on ne s'ennuie pas parce que on va sans arrêt en reparler, sans arrêt se casser la figure, sans arrêt remonter, sans arrêt progresser. Et ça veut dire que on va être constamment en communion l'un avec l'autre et on va communiquer, on va échanger, on va essayer de grandir dans la connaissance de l'autre, dans le chemin qui va permettre de faire grandir la joie de l'union des corps aussi. Etc. Et donc on est constamment dans cette recherche du bien de l'autre, du bien pour l'autre. Et c'est ça qui nous conduit doucement à être en vérité dans le don de nos corps et à cheminer vers la communion. Quel bel itinéraire nous est proposé par le Seigneur. Quel cadeau le Seigneur nous fait. Vous voyez? Et on est invité à conjuguer générosité et prudence dans le don de la vie. Et il faut se dire que le Seigneur nous aime et a une très grande miséricorde dans la façon où, toutes les fois où on peut se casser la figure et se tromper, on peut se relever et il vient combler notre amour pour pouvoir justement nous relever et pouvoir cheminer vers un amour en vérité qui nous donne la joie. Je vous invite à méditer là-dessus. Et n'oubliez pas que plus un couple se donne dans l'union des corps, en vérité, plus l'Église entière grandit. Quel beau projet nous avons devant nous. À la semaine prochaine pour une émission en direct à laquelle vous pourrez poser vos questions. Vous pouvez d'ores et déjà les envoyer à Radio Maria. Je vous souhaite une très bonne journée.